これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
ヘッベンガ。
Le Gué Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la technique, Jean-Michel Coqui.
Et à la réalisation, comme d'hab, François Connac. Homme libre, toujours tu chériras ta mère. Tel pourrait être l'adage en sous-titre de Coriolan, le général romain que seule la piété filiale est susceptible de mettre à genoux. Digne fils de Volumni, Coriolan le brave doit d'abord son courage au fait de savoir que la grandeur est aussi de savoir s'incliner. À genoux, femme! Humilions-le de nos génuflexions. Le surnom de Coriolan lui inspire plus d'orgueil que nos prières de pitié. À genoux, finissons-en. À genoux pour la dernière fois. Après quoi nous retournerons à Rome, mourir au milieu de nos voisins. Si Volumni reprend ainsi le pouvoir sur son fils et sauve Rome de l'invasion, c'est que la grandeur, la vraie, n'est pas affaire de gloire ni de hauteur, mais uniquement, seulement et simplement d'humilité.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
S'il fallait accorder une seconde émission à Coriolan, héros de la pièce éponyme de Shakespeare, c'est que son puissant caractère ne nous en a guère laissé le choix. Car le cœur fier qui crie « c'est moi qui vous bannis » à la foule possédée qui le condamne à l'exil, est aussi celui qu'une mère fait fléchir, car le regard du soldat qui fait germer l'effroi sur les champs de bataille est aussi celui qui imagine, une fois rentré à Rome, dans les yeux de sa femme, les yeux des veuves qu'il a lui-même fait veuve.
Oh, mais comme vous avez raison, Paola. On va entendre l'extrait, tiens, justement, dans lequel Coriolan prend acte du fait que, certes, on le regarde avec joie et les larmes qu'on verse à son retour de campagne, une fois qu'il a conquis Coriol et donc conquis son nom, Coriolan, quand Coriolan se souvient que les yeux des veuves et des orphelines de Coriol pleurent, mais non pas de joie, mais de tristesse, c'est aussi la grandeur de ce personnage. Écoutez l'extrait.
Il provoque le fracas devant lui. Et les larmes derrière lui. La mort, ce noir esprit, est là dans son bras nerveux. Ce bras qui se lève, s'abat et tue des malheureux.
Que le monde entier sache, comme nous, que la panne de la victoire revient à Caius Marcius. Et qu'à partir d'aujourd'hui, pour ce qu'il a accompli devant Coriol, nous l'appelons, sous les acclamations et les vivats de toute l'armée, Caius Marcius Coriolan, et qu'il porte ce surnom noblement à jamais.
Caius Marcius Coriolan.
Assez, assez. Cela blesse mon cœur. Je vous en prie, arrêtez.
Général, votre mère.
Vous avez, je le sais, imploré tous les dieux pour asseoir mon succès.
Non, mon vaillant soldat, debout. Ah, mon noble Marcius, mon digne Caius, et par ta glorieuse action porteur d'un nouveau nom. Lequel ? Est-ce Coriolan que je dois t'appeler ? Mais ta femme ?
Mon gracieux silence. Je te salue. Aurais-tu ri si j'étais revenu dans un cercueil, toi qui pleures de me voir triompher ? Ah, ma chère, de tels yeux, ce sont les veuves de Coriol qui les ont, et les mères qui ont perdu leur fils.
C'est dommage qu'on n'entende pas dans la version française, même si elle est bien interprétée, la voix de Vanessa Redgrave, qui joue...
Tout à fait, qui joue
Volumni.
Oui. Oh, qui est formidable en Volumni. Qui est admirable.
Un mélange de douceur et de sévérité dans sa voix.
Elle est antique. Elle est antique. Alors, le film Coriolan, enfin, Ennemi juré en français, c'est un titre absurde. On a voulu présenter comme un duel entre Coriolan et Aufidius, ce qui, au départ, est d'abord l'histoire de Coriolan. Aufidius n'est que l'occasion pour Coriolan de vérifier sa propre bravoure et son sens de l'honneur. Mais enfin, laissons ça. Ce film, qui est une réussite à mon sens complète, est un film un peu anachronique, Vanessa Redgrave. Enfin, ça ne se passe pas vraiment au 5e siècle avant Jésus-Christ, comme c'est le cas de l'action. Coriolan est le contemporain de Périclès. Hein. Mais ça se passe dans une sorte d'Angleterre mythique, actualisée, moderne. Les épées sont des fusils, des mitraillettes, etc. Et Vanessa Redgrave est habillée en soldatesse. Et c'est dans cette tenue martiale qu'elle accueille son fils, qu'elle le salue. et qu'elle lui fait au fond un compliment qui renseigne sur sur ce qu'il est, sur ce qu'il devient, puisque c'est elle qui lui a donné le caractère, et on verra comment, lui a donné le caractère de devenir ce qu'il est, la possibilité de devenir ce qu'il est, lui a transmis les valeurs, comme on dit, même si ce mot est sujet à caution, qui font de Coriolan, Coriolan. Et c'est elle qui consent au fait que son fils, celui qu'elle a nommé, change de nom, pour endosser un nom qui lui va encore mieux, puisque c'est un nom que la ville entière lui attribue. Et c'est ça qui est beau, et là où on comprend quelque chose, je crois, d'essentiel, c'est que c'est une mère qui est tout entière confondue avec la cité dont Coriolan est l'humble serviteur. Elle est Rome tout entière, donc elle ne voit aucun inconvénient à ce que Coriolan lui-même changeât de nom à l'occasion de son triomphe.
Et dans l'extrait qu'on a entendu, qui se situe dans la pièce, donc à la scène... À la scène première de l'acte 2,
retour de campagne. Il vient de mettre une raclée au Volsk et il est de retour et il est couvert de gloire.
Et on
tout va bien pour l'instant.
On entend Volumnier lui dire « debout ». Donc c'est la première fois, il me semble, dans la pièce que Coriolan se met à genoux devant sa mère.
Évidemment. Et devant qui d'autre? Cet homme-là est si grand, et au fond toute l'émission portera sur ce paradoxe qui n'en est pas un. Cet homme-là est si grand. Et si peu, au fond, imbu de sa propre grandeur, qu'il sait se mettre à genoux devant qui le mérite, en l'occurrence sa mère. Mais c'est plus que ça, ça va plus loin que ça. Bien sûr, il se met à genoux devant sa mère, et il y a un jeu d'ailleurs, un lecteur un peu dialectique, un peu hegelien, un Dubrovski, façon Corneille ou la dialectique du héros, c'était un livre qu'on lisait beaucoup en Cagne de mon temps, Paola, vous n'étiez pas née, verrait dans ces génuflexions successives, Coriolan qui s'agenouille devant sa mère, puis sa mère qui s'agenouille devant Coriolan, puis Coriolan qui s'agenouille de nouveau, genre « Mother, what have you done ?» Dans cette succession de génuflexions, en vérité, une sorte de potlatch inversé et une façon pour chacun de prendre le dessus sur l'autre en s'inclinant devant lui. Donc on pourrait faire une lecture dialectique de Coriolan, un peu cornélienne de Coriolan, effectivement, telle qu'on peut la trouver dans Polyeucte ou dans Horace ou même Nicomède. Mais je crois que ça va plus loin que ça. Coriolan s'agenouille devant sa mère parce que sa mère est celle qui lui a appris à quel point d'abord la grandeur se passait de tout apparat, mais également parce que Coriolan s'agenouille devant les veuves et les mères d'enfants qui ont été tués sur le champ de bataille, qu'il a tué lui-même. Il rend hommage à travers cette femme qui aurait pu perdre son fils, car de tous, c'est celui qui a pris le plus de risques. Il rend hommage à toutes les mères, toutes les femmes, tous les enfants d'une ville qu'il a largement dépouillée de sa communauté masculine.
Pour en revenir à cette phrase sur laquelle s'est achevé l'extrait qu'on a entendu, « Ah, ma chère, elles ont ces yeux-là, les veuves de Coriol, voilà. Et les mères qui ont perdu leur fils. »
Mais oui, vous avez raison.
Cet élan de sensibilité de Coriolan.
Alors, est-ce que c'est de la sensibilité? Oui, on peut dire...
Pas de la sensiblerie.
Voilà, c'est ça, exactement. Il est sensible aux douleurs, alors aux douleurs qui lui sont épargnées en l'occurrence puisqu'il est victorieux, mais également aux douleurs qu'il inflige. Ce qui est un signe extérieur de grandeur. D'ailleurs, les Japonais s'en souviennent, quand ils se sont souvenus vraisemblablement, sinon de Coriolan, du moins d'une figure shakespearienne, quand ils ont créé The Crying Man, le samouraï, j'oublie son nom à l'instant, c'est pas vous qui allez m'aider là-dessus, Paola, Inomura, je crois, je ne sais plus, je renvoie à nos auditeurs experts en manga. L'homme qui pleure, le crying man, c'est un assassin, c'est un type qui élimine les mafias locales, etc., mais qui, à chacune de ses victimes, verse une larme. Et la légende de cet homme vient justement, la grandeur de cet homme vient de sa capacité à verser une larme sur chacune de ses victimes. Il verse vraiment une larme, la larme n'est pas contrefaite. Et Coriolan est de cette espèce-là. Il est de l'espèce de ceux qui combat sans haïr et honore celui qu'il combat en pleurant la défaite, en pleurant le mal qu'il a lui-même infligé.
Et il s'en souviendra encore quand, une fois exilé, c'est dans la scène 4 de l'acte 4, je pense, il se retrouve dans la ville où il a combattu et il a une pensée à nouveau pour ses veuves et ses orphelins et dit qu'ils ne me reconnaissent pas. Il me semble, attendez, je regarde, il dit oui, une belle ville est cette Antium. Ville, c'est moi qui ai fait tes veuves. Bien des héritiers de ces superbes édifices ont sous mes coups râlé et succombé. Ah, ne me reconnais pas, tes femmes et tes enfants, armés de broches et de pierres, me tueraient dans une bataille d'écoliers.
J'avais oublié ce moment-là. Effectivement, quand il passe à l'ennemi, Il arrive dans un territoire qu'il a lui-même endeuillé. Mais il en a les moyens, il en a la possibilité. Vraiment, l'objet de ces deux émissions sur Coriolan, c'est de montrer à quel point la grandeur n'est pas une affaire de fierté ou d'orgueil. C'est en ce sens-là que nous avons choisi de lire cette pièce. Et je crois qu'il faut vraiment, Coriolan mérite cette lecture charitable. Aux antipodes, je veux le dire ici, d'ailleurs amicalement, à l'endroit de ceux qui travaillent sur cette pièce et sous cet angle-là, aux antipodes d'une lecture par classe. Vous avez toute une tradition de lecture de Coriolan qui voudrait penser que, au fond, Coriolan, c'est un patricien, il a l'orgueil de sa classe, et il méprise les plébéiens. Cette lecture-là est une lecture, à mon avis, d'abord tout à fait réductrice, qui manque tous les éléments qui font l'aristocratie de Coriolan, c'est-à-dire non pas son appartenance aux patriciens, mais l'aristocratie du cœur, c'est-à-dire sa sensibilité. Donc c'est une lecture qui passe sous silence tout cela, et c'est également une lecture qui correspond exactement aux arguments qui sont ceux des tribuns de la plèbe qui font la peau de Coriolan en disant au peuple « Regardez comme il vous parle, cet homme-là vous méprise. » Or, cet homme-là ne les méprise pas. Coriolan méprise, encore une fois, les gens qui le flattent. Coriolan méprise quiconque le flatte. Si le peuple le flatte, il méprise le peuple, non pas parce que c'est le peuple, mais parce que c'est un monde de courtisans. Donc Coriolan fait partie de ces politiques qui ne peuvent pas faire de politique dans la mesure où il ne sait pas flatter et où toute flatterie est plus douloureuse qu'un coup d'épée. Coriolan a 25 blessures avant la bataille de Coriol et 27 après la bataille de Coriol, ce qui fait la grande fierté de sa mère. Elle est très contente qu'il soit blessé. Mais de toutes ces blessures, aucune d'entre elles n'arrive au talon de la blessure que lui inflige un courtisan venimeux venant lui dire « Coriolan, tu es le plus beau, le plus grand et le plus fort ». C'est ça qu'il ne supporte pas. Et donc, où que se trouve ce vice, Coriolan le pourfend. Et c'est rater cette dimension de la chose que d'indexer les opinions de Coriolan sur l'appartenance à une classe sociale. C'est absurde. C'est pas une classe sociale que Coriolan combat au nom d'une autre classe sociale. C'est pas les patriciens contre les plébéiens. C'est un seul homme excommunié d'une ville qu'il a sauvée, parce que les gens ne lui pardonnent pas de l'avoir sauvé, de les avoir sauvés, parce que les gens ne lui pardonnent pas de ne pas savoir les flatter, et qui, ce faisant, déclare qu'il bannit ceux qui l'ont banni. Donc c'est tout à fait une autre problématique.
Vous avez parlé, Raphaël, vous avez dit qu'on pouvait, à tort, reprocher à Coriolan son orgueil. Mais il me semble que dans la pièce, c'est Volumni, sa mère, qui à un moment lui fait ce reproche et lui dit quelque chose, je ne me souviens pas exactement, mais vous êtes trop absolu ou c'est moi, ce n'est pas moi qui t'ai donné cet orgueil.
Ta vaillance vient de moi, tu l'as sucée avec mon lait, mais tu dois ton orgueil à toi tout seul. Acte 3, scène 2. Première occasion pour Volumni de convaincre Coriolan. On est plus loin que le début que nous avons envisagé. Rappelons à nos auditeurs, qui n'ont pas forcément en tête toute la trame de la pièce, ni l'émission de la semaine dernière, rappelons que Coriolan donc triomphe des Volsques, qu'il est accueilli en héros, qu'il doit, pour être consul, accepter de sourire, de flatter et de dire aux gens « J'ai l'honneur de briguer devant vous le consulat », ce qui est au-dessus de ses forces. Il ne voit aucun honneur dans le fait de briguer le consulat, il ne voit aucun intérêt dans le fait de flatter le peuple, etc. Bon, ça, tout ça, on l'a vu. Mais du coup, ça se passe très mal, on l'exclut, c'est lui qui bannit ce qu'il exclut. Mais avant cela, avant que ça se passe mal, Coriolan refuse de flatter le peuple et prévient sa mère. Il lui dit « Je ne veux pas les flatter, j'aime mieux les servir à ma guise que les commander à la leur », ce qui est la formule du politique, qui est la formule que tous les politiques devraient noter, graver, dont ils devraient se souvenir. « J'aime mieux les servir à ma guise que les commander à la leur ». Il est d'usage de rappeler souvent que « ministre » signifie « serviteur ». Personne ne l'a mieux compris qu'un homme qui préfère servir son peuple à sa guise, à lui, plutôt que commander à son peuple en lui obéissant, c'est-à-dire en étant soumis aux injonctions et aux desiderata de ceux qu'il est censé commander. Il y a trop de faiblesse dans ce pouvoir-là pour Coriolan. Coriolan est trop fort, il est trop fort pour le pouvoir. En fait, c'est ça. L'enjeu. C'est ce que je comprends d'ailleurs en vous le disant. Cet homme-là est trop fort pour exercer le pouvoir. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs personne, en un sens, ne le mérite plus que lui. Le pouvoir s'accueille un bon gouvernant. C'est pas quelqu'un qui aime le pouvoir. Un bon gouvernant, c'est celui qui se pince le nez quand il reçoit les clés de la cité. C'est celui qui est écœuré quand il reçoit le pouvoir. C'est celui qui trouve ça répugnant. On dit souvent que certains hommes politiques sont d'excellents conquérants. Ils savent conquérir le pouvoir, mais qu'une fois aux affaires, ils ne savent pas trop quoi en faire, si vous voulez. Et que ce n'est pas du tout le même tempérament, et qu'il faudrait, pour exercer le pouvoir correctement, avoir l'humilité qui, par ailleurs, nous empêcherait d'y parvenir. Donc, la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir sont deux exercices complètement différents. Coriolan est fait pour gouverner, mais il n'est pas fait pour conquérir le pouvoir. Il n'est pas fait pour recevoir le pouvoir. Il vaut mieux que les choses se fassent dans ce sens-là, si vous voulez. Mieux vaut le martyr d'un homme qui, faute de gouverner un peuple qui ne le mérite pas, au fond, se retrouve donc banni, excommunié, etc., ou ostracisé. Mieux vaut ce martyr-là plutôt que la réussite mondaine, sociale et politique d'un individu rompu aux exercices, aux tours de force et aux génuflexions ou aux contorsions qu'il faut pour arriver au pouvoir, mais qui, une fois qu'il est au pouvoir, ne sait pas quoi en faire et appelle à l'aide ceux qui le méritent vraiment.
Mais alors que faites-vous du coup du reproche de Volumni? Même elle ne peut pas saisir ce qu'on essaye de dire à propos du personnage de Coriolan? Est-ce qu'elle-même n'est pas capable de voir qu'il ne s'agit pas d'orgueil?
Écoutez, je vais vous répondre, mais pour cela, on va revenir encore en amont dans la pièce, au tout début de la pièce, ou quasiment, quand Volumni discute avec Virgilie et se présente elle-même.
Je t'en prie, ma fille, chante. Ou exprime-toi d'une manière un peu plus enthousiaste. Si mon fils était mon mari, je me réjouirais plus ouvertement de cette absence où il remporte tous les honneurs que de manifestations dans le lit conjugal où il me montrerait son amour. Quand il n'était qu'un jeune garçon, le seul fils que j'avais, voyant que l'honneur convenait tellement bien à sa personne, j'étais heureuse de le voir affronter le danger, là où il pouvait trouver la gloire. Et je l'ai envoyé faire la guerre, une guerre dont il est revenu, le front couronné de lauriers.
Mais s'il était mort au combat, madame, qu'auriez-vous dit?
Eh bien, que la renommée aurait touché mon fils. Écoute-moi. Si j'avais 12 fils, je préférerais que 11 meurent noblement pour leur pays, plutôt qu'un seul se complaise voluptueusement dans l'inaction.
Que les cieux protègent mon mari de cet horrible Ophidius.
Il mettra la tête d'Ophidius sous son genou et son pied sur son cou.
Je suis loin d'être une experte de Corneille, Raphaël, mais...
C'est pas votre truc, Corneille.
C'est pas mon truc.
Corneille, c'est presque l'anagramme de Coriolan, d'ailleurs.
Tiens donc.
Allez-y.
Mais... On croirait entendre le père dans Horace.
Le vieil Horace de Corneille. Là, on vient d'entendre Volumni dire « J'aimerais mieux voir, enfin le texte exact, et j'aimerais mieux voir 11 de mes fils mourir noblement pour leur patrie qu'un seul se gorger d'une voluptueuse inaction. » Bon, dans Horace de Corneille, vous savez que l'histoire de Horace et les trois Horaces se battent contre les trois Curias pour savoir qui d'Albe ou de Rome aura le pouvoir. Donc la guerre est réduite à ces deux trios de frères qui s'affrontent. Et à un moment, les deux premiers Horaces sont tués par les Curias. Il reste trois Curias vivants et deux Horaces morts. Seulement le dernier Horace, lui, est en pleine forme. Les trois Curias sont blessés. Et le dernier Horace prend la fuite. Mais faussement la fuite, ce n'est qu'une stratégie, évidemment, puisqu'en réalité, il les attend les uns après les autres et il finit par l'emporter. Et il finit par les tuer tous les trois. Et on demande à ce moment-là au vieil Horace ce qu'il pense de la fuite de son fils. Que vouliez-vous qu'il fît contre trois? Réponse du vieil Horace.
Qu'il mourût. Ou qu'un beau désespoir alors le secourût. N'eût-il que d'un moment reculé sa défaite, Rome eût été du moins un peu plus tard sujette. Il eût avec honneur laissé mes cheveux gris, et c'était de sa vie un assez digne prix. Il est de tout son sang comptable à sa patrie, chaque goutte épargnée à sa gloire flétrie, chaque instant de sa vie après ce lâche tour, mais d'autant plus ma honte avec la sienne au jour. J'en romprai bien le cours, et ma juste colère contre un indigne fils usant des droits d'un père saura bien faire voir dans sa punition l'éclatant désaveu d'une telle action.
Volumni aurait réagi exactement comme Horace si elle avait appris que son fils avait déserté le champ de bataille. Donc on est vraiment dans la même... C'est la même espèce, ce sont des parents exigeants. Or, ces parents produisent des rejetons qui sont, je crois... à leur hauteur. Si on reprend le début, donc cette présentation de Volumni, ce personnage, qui est le personnage principal du personnage principal. C'est le personnage principal de Coriolan, en fait. C'est pas le personnage principal de la pièce Coriolan, c'est le personnage principal de la psychologie du personnage qui donne son nom à la pièce éponyme. Volumni dit « Au moment où j'ai appris que j'avais mis au monde un enfant mâle, je n'étais pas plus frémissante de joie qu'au jour où, pour la première fois, je vis que cet enfant s'était montré un homme. Première information, accoucher d'un garçon, c'est bien, Mais que ce garçon devienne un homme, c'est mieux. De la même manière, je l'ai appelé Marcus, c'est bien. Mais que sa ville le nomme Coriolan, c'est mieux. Donc, premier élément, ça n'est pas une affaire de sang. En ce qui concerne Volumni, ça n'est pas le sang noble de Coriolan qu'elle revendique ou qu'elle brandit, c'est la noblesse tout court. Si noblesse il y a, elle est à conquérir. Et je crois que de cette disposition du caractère de sa mère vient le paradoxe, le fait en tout cas qu'en Coriolan, la fierté n'est pas de l'orgueil. Parce que Volumni, elle n'aime pas la gloire. Ce n'est pas son truc, la gloire. Ce sont des gens austères. Elle n'aime pas la gloire, elle aime la grandeur. Donner le jour à un garçon, c'est bien, moins que de voir ce garçon devenir un homme, parce que les qualités acquises et la bravoure valent mieux que la naissance. Ce n'est pas le prestige qu'elle aime, c'est le courage. Elle dit cette phrase, elle dit « Le sang sied mieux à un homme que l'or au trophée ». Et pour aller, d'ailleurs, pour abonder dans son sens, quand elle apprend qu'il est blessé et qu'il a 27 blessures désormais au lieu de 25, il est déjà tout balafré, elle dit « Oh, il est blessé, j'en rends grâce aux dieux ». Or, pour comprendre à quel point Coriolan est le digne fils de sa mère, il faut se souvenir que Coriolan, sur le champ de bataille, a déclaré lui-même « Le sang que je perds est un soulagement plutôt qu'un danger pour moi ». Et si parmi ces hommes, il continue, « si parmi ces hommes il en est un, et ce serait un péché d'en douter, qui aime la couleur, le rouge, dont vous me voyez fardé, qui craigne moins pour sa personne que pour sa renommée, qui pense qu'une mort vaillante vaut mieux qu'une mauvaise vie, et qui préfère sa patrie à lui-même, que ce brave et unique, où tous les braves comme lui, expriment leurs sentiments en levant ainsi le bras et suivent Marcius, c'est-à-dire lui-même. C'est avec ces mots que Coriolan mobilise ses troupes. » En faisant valoir une logique qui est assez camusienne au fond. Vous allez mourir. Vous allez mourir, vous allez mourir pour conquérir un lopin de terre. Vous allez mourir, il n'y a donc aucune raison de ne pas se battre. Mmh. C'est au contraire, toute la révolte doit trouver sa source là-dedans. Allez-y.
J'imagine ce que penserait Bardamu, puisqu'on en avait parlé en juin dernier.
Oui, en juin dernier, absolument.
Ce que penserait Bardamu en écoutant les propos de Coriolan, quand même.
Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est vraiment là pour le coup, on est dans deux mondes tout à fait opposés. Mais Bardamus, c'est celui qui est lucide, mais qui n'a pas du tout les moyens de la lucidité qui est la sienne. Par conséquent, sous la bravoure et les vivas des généraux, il repère une misère absolue, un scandale, et puis surtout l'égoïsme ou l'incurie de ceux qui envoient les autres à la mort. Alors, vous comprenez, par exemple, si vous prenez le médecin-chef Bétombe, celui qui a des beaux yeux, qui plaît à toutes les infirmières et qui présente la France comme une belle femme qu'il faudrait attraper sur un coin de table, et c'est une femme, la plus belle des femmes, la France, etc. C'est toutes ces conneries-là auxquelles Bardamu est assez sensible. Il dit qu'il savait parler aux soldats. Bétombe, il n'y va pas, lui, au front. C'est celui qui se contente d'implanter son bazar électrocuteur, comme il dit, dans les cervelles brûlées au gaz sarin des soldats, au gaz moutarde des soldats. Donc c'est celui qui prend pas de risque. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Pareil, Brassens qui dit, écoutez, mourir pour des idées, je veux bien, mais allez-y, après vous, monsieur. Coriolan, il est en tête de file. C'est le premier à mourir, c'est le premier à y aller. Et je ne sais pas ce que Bardamu aurait fait d'une telle bravoure, justement. Bardamu n'est pas hostile à la bravoure. Il n'aime pas la connerie. Il n'aime pas l'imposture du type qui envoie les autres mourir à sa place. Il n'aime pas l'imbécile patriote qui sanctifie ou qui sacralise son appartenance à telle région du monde. Tout ça, ça le débecte. Bon, mais quand le maréchal des logis et le colonel se retrouvent explose sous le coup d'une grenade, sous ses yeux. Juste avant que ça se passe, Bardamu, il est assez admiratif du fait que le colonel marche comme si de rien n'était au milieu des balles qui fusent, attachées à l'abattre. Il sait qu'il est au cœur de la cible et il continue de marcher comme si de rien n'était. Et ça, Bardamu, bon, voilà, c'est pas le pire. C'est pas le pire, celui-là. La bravoure, si vous voulez, on peut quand même distinguer la bravoure de la folie ou de la témérité. Coriolan n'est pas téméraire. Coriolan n'est pas téméraire, seulement il fait moins de cas de lui-même que de la cause qu'il sert. Il est au service d'une cause plus vaste que lui. Bardamu est tout à fait étranger à ce genre de dispositif.
Une petite pause Brassens, peut-être ?
Une petite pause Brassens, tiens, c'est vrai. Mourir pour des idées, quelle chanson antipathique, écoutez.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi avec un soupçon de réserve. Toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Vous la trouvez antipathique donc cette chanson, Raphaël ?
Oui, je trouve ça facile en fait. Bah, c'est une chanson qui stigmatise ceux qui envoient les autres à la mort. En disant, écoutez, allez-y donc les premiers, hein,
les infligez-vous, bons apôtres, oui.
Voilà, vous les bons apôtres, donc, infligez-vous à vous-même les blessures que vous saluez, ne vous prenez pas pour des roulades, le côté mort de France, debout, soyez fiers, etc., on va venger l'Alsace-Lorraine, etc., etc., allez-y, allez-y. Alors effectivement, il vaut mieux être Alain, Émile Chartier, qui demande à 46 ans, alors qu'il est atteint par la limite d'âge, à être seconde classe dans une guerre qu'il fustige et qu'il déteste, qu'il raconte dans Mars ou la guerre jugée. Vaut mieux être Alain qui va au front en détestant la guerre que des roulades ou je ne sais pas quel boutefeu, justement, qui reste bien peinard dans la capitale tout en appelant à la bravoure. Bien sûr, mais c'est cette distinction que fait Brassens. Mais de là à dire mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, si vous voulez, c'est le Brassens pacifiste qui, dans une autre chanson, l'oncle Marcel, l'oncle Gaston, met sur le même plan les Allemands et les Anglais. Or, c'est pas, ça ne fonctionne pas. On ne met pas sur le même plan les Allemands et les Anglais. Qu'est-ce que vous voulez ? Dans l'existence, en cas de guerre, il n'y a pas toujours seulement des belligérants. On ne met pas sur le même plan les Allemands et les Anglais, comme on ne met pas sur le même plan les Serbes et les Bosniaques, si vous voulez. Il y avait un agresseur, il y avait un agressé. On ne met pas les Allemands et les Anglais sur le même plan. Et de façon générale, il y a des gens qui meurent pour des idées sans pour autant avoir la passion de la mort. Il arrive qu'ils soient mortifères de refuser de mourir pour une idée.
Comme...
Voilà, bon, il me semble qu'on peut, de ce point de vue, souscrire à Coriolan plus qu'aux propos de Brassens.
Les pacifistes peuvent être contre la paix, oui, c'est sûr.
Bah, alors, vous avez des... on peut être pacifiste contre la paix ou on peut vouloir la paix. Écoutez, qui veut la paix prépare la guerre. Il y a un moment, on s'est incliné à Munich, qui veut la paix prépare la guerre. En l'occurrence, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, c'est se donner le beau rôle à peu de frais. C'est être soi-même, d'une certaine manière, en situation de celui qui regarde et qui déplore un massacre, au nom du fait d'ailleurs que la mort n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. La Camarde est assez vigilante. Elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Oui, d'accord, mais enfin, le fait qu'on doive tous mourir un jour n'est pas une raison suffisante de ne pas lutter contre l'injustice quand, par exemple, l'Allemagne envahit la zone libre ou bien instaure un régime d'exception avec déportation à la clé dans
confère
un pays...
Camus.
Voilà, confère Camus, si vous voulez. Les lettres à un ami allemand, me semble-t-il, sont de meilleure compagnie que la très belle chanson de Brassens, dont le pacifisme me semble ici tout à fait coupable ou hors de propos.
France Culture, le gai savoir.
Raphaël Antoven.
Revenons-en à Volumni. Alors, vous avez dit à plusieurs reprises qu'elle parvenait à faire céder son fils, à le convaincre, dans un premier temps, d'essayer de flatter le peuple. Peut-être qu'on pourrait voir comment elle s'y prend, de quelle façon elle arrive à faire céder Coriolan.
On va le voir et on va l'entendre. Écoutez.
Quand bien même tout s'effondrerait autour de moi, qu'il me menacerait de mourir sur la roue sous les sabots de chevaux sauvages, je ne changerai pas l'attitude vis-à-vis d'eux.
Marcius.
Je pense que ma mère commence à ne plus m'approuver. Je parle de toi. Pourquoi voudrais-tu que je sois plus doux? Tu voudrais vraiment me voir trahir ma nature? Demande-moi plutôt de rester l'homme que je suis.
Mon cher fils, j'aurais voulu que tu commences à établir ton pouvoir avant de le dilapider de cette façon.
Laisse-moi.
Tu aurais pu être l'homme que tu es en faisant moins d'efforts pour y arriver.
Qu'ils aillent se faire pendre.
Oui, et qu'on les brûle aussi.
Allons, allons, vous avez été trop brusque, nettement trop brusque. Vous devez réparer ce que vous avez fait.
Il n'y a pas d'autre remède. Si vous refusez de le faire, notre bonne ville sera divisée en deux et elle périra.
Je t'en prie. Écoute-les. J'ai un cœur aussi inflexible que le tien, mais j'ai aussi un cerveau qui guide ma colère afin d'en tirer le meilleur profit.
Bien parlé, madame.
Et que dois-je faire?
Retournez voir les tribuns.
Bon, et après?
Vous repentir de ce que vous avez dit.
Pour eux? Je ne peux pas le faire pour les dieux et il faudrait que je le fasse pour eux.
Tu es trop intraitable. Je t'ai entendu dire que l'honneur et la politique vont ensemble à la guerre comme deux amis inséparables.
Pourquoi t'obstiner?
Parce qu'il est de ton devoir, maintenant, de parler au peuple. Non pas selon tes convictions, ni selon les sentiments que t'inspire ton cœur, mais avec des mots que ta bouche a appris par cœur. Bien que ce soit des syllabes bâtardes que tu réprouves en ton fort intérieur, je dissimulerais ma nature si mon destin et la position de mes amis exigeaient que j'agisse de la sorte pour préserver l'honneur. Je dis cela pour ta femme, ton fils, pour les sénateurs, les nobles et pour toi. Je te le demande, mon fils. Va vers eux, sois avec eux et dis-leur que tu es leur soldat. Et qu'ayant été formé pour te battre, tu ne sais pas te montrer délicat quand tu sollicites leur faveur. Mais qu'en vérité, tu t'efforceras dorénavant d'être à leur service.
Si vous faites comme elle vous le dit, eh bien vous gagnerez leur cœur.
Je t'en prie, laisse-toi guider.
Monsieur, il faut vous appuyer sur un parti puissant. Ou vous défendre par la modération ou par l'absence. Ils sont en colère.
Quelques paroles bien senties.
Elles ne seraient pas superflues si seulement ils pouvaient accepter de s'y plier.
Il le doit. Il le fera. Je t'en prie, dis-leur que tu le feras et mets-toi au travail.
Il existe dans le théâtre de Shakespeare d'autres confrontations entre une mère et un fils, ou entre un fils et sa mère. On peut penser par exemple à Hamlet, je crois que c'est dans l'acte 4.
Acte 3.
Acte 3.
Scène 4.
Et je crois, de mémoire vraiment, vous me reprendrez, c'est Hamlet qui convainc sa mère de ne plus dormir dans le même lit que son...
De ne plus forniquer dans une bauge infecte. Voilà. C'est le lexique de Hamlet. Hein. Hamlet parle à sa mère sur un ton que Coriolan n'emploierait guère pour parler à la sienne.
Alors comment se fait-il qu'un prince mélancolique comme Hamlet parvienne à convaincre sa mère quand un homme fort comme Coriolan se laisse convaincre par sa mère de trahir sa nature, comme il dit?
Il y a plusieurs façons de répondre. Je vous remercie de faire ce parallèle, Paola, parce qu'effectivement, c'est intéressant parce qu'on est dans une situation complètement inversée. D'abord, vous avez dit un homme fort comme Coriolan se laisse convaincre par sa mère. Ça n'est pas, encore une fois, se laisser convaincre n'est pas un signe de faiblesse. Montaigne, que Shakespeare avait lu. Montaigne, on en revient toujours au chapitre 8 du livre 3, « Je me sens plus fort de la victoire que je remporte sur moi-même quand je m'incline devant les arguments de mon adversaire que quand il le cède devant moi à cause de la faiblesse de son propos. » Quelque chose comme
ça. Socrate aussi.
Socrate, « Je suis quelqu'un qui aime à être démenti. Je suis quelqu'un qui aime à être détrompé, » dit Socrate. Voilà. La grandeur, la force est de savoir changer d'avis. Le contraire de la force étant le débat en politique, c'est-à-dire le moment où deux individus sont mandatés par leurs ouailles pour tenir un discours qu'ils tiennent, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, ils adapteront non pas le discours aux circonstances, mais les circonstances au discours. Signe de faiblesse, signe de dogmatisme, indice du fait qu'en démocratie, il ne peut pas y avoir de débat dans la mesure où chaque candidat est d'abord le représentant de son camp et en aucun cas le légat de la raison. Ici, on est en présence de la grande politique, c'est-à-dire un individu qui est capable précisément de changer d'avis, alors qu'il est, en apparence, franchement pas commode. Il est carrément inflexible, Coriolan. Il passe même pour inflexible, et c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle le peuple lui en veut. Mais le peuple se trompe, Coriolan est flexible. Coriolan est flexible à l'instant où il comprend, grâce à sa mère, que c'est son orgueil, pointe d'orgueil pour le coup, qui l'empêchait de céder jusque-là. C'est-à-dire que c'est par grandeur, c'est par courage, c'est par noblesse qu'il défend sa ville, mais c'est par orgueil qu'il refuse de s'incliner devant ceux dont il doit pourtant briguer les suffrages pour devenir consul. Alors, la différence avec Hamlet. Dans Coriolan, on a deux scènes où Coriolan est fléchi par sa mère, vaincu par sa mère, pour sa grandeur justement, pour sa plus grande gloire. Dans Hamlet, donc acte 3, scène 4, c'est Hamlet qui fléchit sa mère. Mais, pardon, c'est pas la même mère. Le problème est là. C'est que dans un cas, la maman, c'est Volumnie. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui. C'est une femme intraitable. C'est une femme qui, d'ailleurs, Coriolan n'a même pas de père, on sait pas où il est, il n'y a pas besoin, si vous voulez. C'est une femme intraitable, c'est une femme absolument impitoyable, c'est une femme enfin, impitoyable. Non, elle est pitoyable au sens où elle est capable de s'incliner. Mais c'est une femme magnifique. C'est une femme qu'on ne soupçonne pas, qu'on ne soupçonne à aucun moment. Je veux dire, elle n'a pas de problème de vertu, si vous voulez, elle n'a pas de problème domestique, Volumnie, c'est pas son affaire, quoi. Elle n'a pas de sexe, Volumnie, c'est pas l'histoire. La mère de Hamlet, c'est celle dont le mari, roi du Danemark, est tué par le frère, qui est un avorton à côté de son premier mari, et qui accepte, alors qu'elle, au fond, c'est toute la question, on ne le sait jamais, hein, on ne sait pas si elle sait que le frère a tué. On ne sait pas ça. Mais elle accepte de refaire sa vie avec cet homme qui n'est pas le dixième du précédent. Donc c'est une femme qui, pour le coup, autant Coriolan incarne la figure intraitable d'une héroïne véritable à travers la figure de Volumnie, autant Hamlet décrit dans la figure de Gertrude la figure terrible pour un enfant d'une mère qui serait prête à sacrifier toute chose, à commencer par la santé même de son enfant, au fait d'être encore un peu aimée. Figure classique, schéma classique dans les familles recomposées d'ailleurs, et extrêmement douloureux. Dans 8 Mile, le film avec Kim Basinger et Eminem, comme ça, Kim Basinger joue ce rôle-là, justement. Le rôle d'une mère qui ouvre sa porte et son lit au premier connard venu, dans la mesure où elle a tellement besoin d'être aimée qu'elle accueillerait n'importe qui. C'est à cette disposition-là du caractère maternel, cette navrante disposition d'un caractère maternel, que Shakespeare fait appel dans Hamlet. Et effectivement, Hamlet convainc sa mère en lui disant, bah oui, il lui brise le cœur et puis il lui dit d'en jeter la plus mauvaise part. Sa mère s'incline devant le chétif prince du Danemark, alors que le général, lui, ne peut que s'incliner devant la parole paternelle de sa mère. Et c'est ce qui est, c'est, je crois, ce qui est en jeu ici.
Mais pour quelle fin? Puisque, voilà, c'est une surprise pour personne, hein. C'est une tragédie. À la fin, Coriolan meurt assassiné.
Ça n'a aucune importance.
Oui.
Ça n'a aucune importance précisément parce qu'on peut mourir pour des idées, précisément parce qu'on peut se consacrer à un exercice de sa vie qui va plus loin que soi. Arendt dit que le courage consiste à sacrifier sa vie au principe de la liberté du monde. C'est ce que fait Coriolan. La mort de Coriolan est inévitable, bon, à la façon des personnages de Clarisse qui doivent mourir. La mort de Coriolan est inévitable, mais elle est tout à fait secondaire à côté des raisons que pour lesquelles il accepte de mourir. Paola.
Oui, je pensais à la façon de Surena, la dernière pièce de Corneille. Surena est trop fort lui aussi pour le pouvoir et il meurt assassiné par des anonymes qui lui envoient un jet de flèche.
Ou Cyrano.
Oui, ou Cyrano.
Assassiné par un laquais d'un coup de bûche. Ça n'enlève rien à sa grandeur. C'est pas parce qu'il prend une bûche sur la tête, parce qu'il a mécontenté quelques puissants attachés à sa grandeur d'apparat et à sa grandeur d'établissement qu'il est moins Cyrano. Je veux dire, on peut toujours mourir. Hein. On peut toujours mourir, on peut toujours se faire descendre pour une bêtise. On peut toujours mourir. C'est pas là que la grandeur est en jeu. Coriolan sait depuis le début que sa vie compte moins que ce qu'il est capable d'en faire. Et Coriolan est celui qui, parce qu'il n'a pas le souci de sa propre postérité, comme Achille, est susceptible de donner le jour à un destin qui va plus loin que sa petite vie. Que la petite vie d'un homme.
Oui. Et quel sens donnez-vous au mot qu'il dit à sa mère en anglais lorsqu'il lui dit « Mother, what have you done ?»
Alors attention, parce que le « mother, what have you done ?» donc que vous avez raison de citer, qui est à peu près aussi célèbre que le bonne nuit mère de Hamlet, qu'il répète quatre ou cinq reprises dans la scène d'Hamlet que vous avez citée.
Presque aussi célèbre.
Voilà. Mother, what have you done? Mère, qu'avez-vous fait? C'est ce que Coriolan dit quand sa mère entreprend de le fléchir une seconde fois. Et sa mère aura beaucoup plus de mal à le convaincre de ne pas envahir Rome qu'il a banni, c'est-à-dire de ne pas envahir à la tête de l'armée des Volsques qu'il a commencé par vaincre au début de la pièce, de ne pas envahir la ville qu'il a bannie. Elle aura beaucoup plus de mal à le convaincre de ne pas faire ça qu'à le convaincre de s'incliner deux secondes devant le bon peuple et les braves gens pour leur dire « Écoutez, ok, nommez-moi consul, j'ai l'honneur et l'humble honneur de le solliciter auprès de vous. » Quand on va y venir à cette deuxième séquence, ce deuxième moment où Volumni convainc Coriolan, c'est beaucoup plus difficile pour elle et on va l'entendre aussi. Le premier temps, Coriolan, bon, se laisse vaincre. Hein, il dit « Soit il le faut, arrière ma nature, à moi, ardeur de la prostituée, c'est pas sa mère qui parle, que ma voix martiale qui faisait cœur avec mes tambours devienne grêle comme un fossé de nuque ou comme la voix virginale qui endort l'enfant au berceau, que le sourire du fourbe se fixe sur ma joue et que les larmes de l'écolier couvrent mon regard de cristal, qu'une langue de mendiant se meuve entre mes lèvres et que mes genoux armés qui ne se pliaient qu'à l'étrier fléchissent comme pour une aumône reçue. Non, je n'en ferai rien, je ne veux pas cesser d'honorer ma conscience ni enseigner à mon âme par l'attitude de mon corps une ineffaçable bassesse. » Alors, il commence par protester, et sa mère lui dit « C'est là que tu es orgueilleux. Ta vaillance vient de moi, mais tu dois ton orgueil à toi seul. » « De grâce, » répond Coriolan, « calmez-vous, mère. Je me rends à la place publique. Ne me grondez plus. Je vais escamoter leur sympathie, escroquer leur cœur et revenir adoré de tous les ateliers de Rome. » Donc, premier temps, il s'incline. Or, évidemment, pour lui-même, calcul de son intérêt, c'est un très mauvais calcul. Parce que quand il arrive devant le peuple, prêt donc à dire les paroles fétides du genre « Ô bon peuple, accepte que je sois consul. Genre, j'ai mérité d'être consul, mais maintenant pour achever de le mériter, je dois en plus te flatter un petit peu. » Donc ces paroles de flatterie qui lui sortent à grand-peine de la bouche, quand ces paroles lui viennent, il est immédiatement interrompu par le peuple, par certains éléments, eux-mêmes placés là, par les tribuns de la plèbe qui, en vieux trotskistes, savent noyauter une assemblée et donc installent le climat de défiance qui fait que Coriolan se retrouve en situation minoritaire et qu'on le pousse à bout et que du coup, il les insulte, on le bannit, il les bannit et le voilà passé à l'ennemi.
Ophidius, c'est vous, Volsc. Écoutez, aucune demande de Rome ne se fera en privé. Quelle est ta requête ?
Quand bien même nous resterions sans parler, nos vêtements et nos corps fatigués trahiraient la vie que nous avons menée depuis ton exil. Songe, s'il te plaît, à quel point nous sommes les femmes les plus malheureuses de la terre en venant ici, puisque ta vue qui devait nous faire verser des larmes de joie et faire tressaillir nos cœurs de plaisir nous fait au contraire pleurer et trembler de peur et de douleur, obligeant la mère, la femme et l'enfant à voir le fils, le mari et le père arracher les entrailles du pays qui l'a nourri. Et ce sera à l'évidence une calamité, quel que soit le camp qui l'emportera, car soit tu seras conduit, tel un traître passé à l'ennemi, les menottes aux mains à travers nos rues, soit tu piétineras triomphalement les ruines de ton pays et tu porteras la palme pour avoir bravement versé le sang de ta femme et de tes enfants. En ce qui me concerne, mon fils, je propose que nous n'attendions pas que le destin détermine l'issue de cette guerre. Si je ne peux pas te convaincre de te montrer clément vis-à-vis des deux camps et que tu préfères en anéantir un, il faudra, avant que tu emmènes tes troupes à l'assaut de ton pays, que tu marches sur le ventre de ta mère, qui t'a fait venir en ce monde.
Oui, et sur le mien, qui t'a donné ce garçon pour que ton nom se perpétue à travers le temps.
Tu ne me marcheras pas sur moi. Je m'enfuirai jusqu'à ce que je sois grand. Et ensuite, je me battrai.
Je suis resté là trop longtemps.
Non, tu ne vas pas nous quitter ainsi. S'il s'agissait effectivement que nous te demandions de sauver les Romains au prix de la destruction des Volsques que tu as décidé de servir, tu pourrais nous accuser de vouloir bafouer ton honneur. Non. Nous te demandons de les réconcilier, afin que les Volsques puissent dire « Nous avons fait preuve de clémence, et les Romains, nous l'avons accepté. » Et que chacun des deux côtés se mette à t'acclamer, en criant « Sois béni pour avoir conclu cette paix. » Réponds-moi, mon fils. Pourquoi ne dis-tu rien ? Et toi, parle, ma fille. Tes larmes ne l'émeuvent absolument pas. Parle-lui, toi aussi. Peut-être que tes enfantillages le toucheront davantage que nos arguments. Il n'y a pas d'homme au monde plus attaché à sa mère, et pourtant il me laisse déblatérer comme une malheureuse. Tu n'as jamais eu de toute ta vie pour ta chère mère le moindre égard. Elle qui, comme une pauvre poule, t'envoyait à la guerre en gloussant et te ramenait à la maison couvert de gloire. Si ma requête est injuste, dis-le et chasse-moi, mais si elle ne l'est pas, alors tu es malhonnête. Et les dieux te poursuivront pour avoir refusé de permettre à ta mère d'accomplir le rôle qui lui échoit. Allons, mesdames, faisons-lui honte en nous mettant à genoux. Maintenant, partons. Cet homme a une Volsque pour mère. Sa femme habite Coriol, et c'est un hasard si cet enfant lui ressemble. Maintenant, laisse-nous nous en aller. Et je me tairai jusqu'à ce que notre ville brûle, et alors on entendra ma foi.
Oh, mère, mère, qu'est-ce que tu as fait ?
On voit Raphaël à travers ces longues tirades que Volumni, surtout celle de Volumni, peine à convaincre, comme vous le disiez, peine à convaincre Coriolan, et qu'elle use de tous les ressorts. Et pendant qu'on entendait, j'ai pensé au tout début de l'apologie de Socrate. Au moment du procès de Socrate,
oui.
Il dit que pour convaincre ses juges, lui n'aura pas recours aux pleurs des femmes, n'aura pas recours à ce qui fait larmoyer, à l'inverse de Volumni, qui en est bien obligé d'en arriver là et de faire venir, par exemple, le fils de Coriolan, de faire pleurer Virgilie.
Alors, faire pleurer Virgilie, elle n'a aucun mal, puisque certes. Virgilie pleure du début à la fin de la pièce, c'est vrai. Mais il est vrai que brandir le fils, c'est l'arme suprême. Parce que elle lui montre quelqu'un qui est non pas la réplique de son père, mais le prolongement de son père, la perpétuation de son père. C'est-à-dire, s'il est bien dans l'existence quand on devient parent, on découvre cette forme d'amour tout à fait particulière qui consiste à aimer quelqu'un plus que soi. C'est-à-dire à tenir à quelqu'un plus qu'à soi-même. À prendre une balle pour... Voilà. C'est en général comme ça qu'on aime les enfants. Qu'on aime. Donc dans la famille de l'amour, c'est une case tout à fait inédite qui s'allume, assez inextinguible en un sens. Et ce sentiment-là renseigne sur la possibilité que nous avons tous de ne pas nous préférer. C'est en tant que parents que nous découvrons en nous la possibilité de préférer quelqu'un d'autre à soi. Et ce faisant, elle fait non seulement appel à ses sentiments paternels, mais bon, sentiments paternels, que vous voulez, Coriolan serait mort au champ de bataille, sans penser à son fils. C'est pas tellement le sentiment paternel, c'est plutôt le sentiment océanique de celui qui sent que sa propre existence ne s'arrête pas aux frontières de sa petite vie. Et qu'il y a plus que lui, plus en jeu que lui. On peut appeler ça l'avenir, on peut appeler ça une idée, on peut appeler ça un sentiment, mais... ça va au-delà de lui. Donc, l'arme suprême, c'est l'arme du fils qu'elle emploie ultimement. Donc, génuflexion, l'arme de Virgilie qui, c'est les larmes de sa femme. Ce sont les larmes de sa femme, souvenez-vous, Paola, qui rappelle à Coriolan les larmes des veuves de Coriole. Donc, c'est par les larmes de sa femme, ce silence qu'il aime tant, sa femme toujours silencieuse et pleurante. Les larmes de sa femme le renseignent sur la douleur qu'il vient d'infliger aux ennemis volsques. Mais bon... c'est pas le plus efficace. Sa mère à genoux, ça marche plus. Mais le coup de grâce, c'est son fils. C'est son fils qui lui promet lui-même, d'ailleurs, de le combattre. De combattre son père, si son père se rend, comme il en a l'intention manifestement, traître à sa nation. C'est drôle parce que pour les besoins de cette émission, on a vu l'extrait donc, du film que nos auditeurs vont entendre. Et on voit Volumni, Virgili et le garçon arriver dans une espèce de champ de ruines, en fait, une sorte de truc un peu désaffecté, à Coriolles. Bon. Or, nous-mêmes, Paola, la mise en abîme s'arrête là, mais enfin, pour l'anecdote quand même, on est à Mangin aujourd'hui. Alors, les auditeurs de France Culture doivent savoir ce que c'est que Mangin. Mangin, c'est pas la Maison Ronde, c'est pas la maison de la radio, c'est une annexe de la Maison Ronde, c'est une annexe parallélépipédique de la Maison Ronde. Et alors, Mangin, c'était l'auberge de France Inter pendant plusieurs années. France Inter a réintégré la Maison Ronde, on s'en réjouit. Et du coup, comment dire, c'est vraiment un champ de bataille déserté. C'est-à-dire, Mangin, aujourd'hui, c'est des couloirs vides, des studios décrépits, juste abandonnés. On est un peu comme des rescapés qui découvrent un poste de radio encore fonctionnel sur une planète perdue. Il y a des couloirs sales, des pièces à l'abandon, gardées par une sécurité quand même désœuvrée. Où tout témoigne ici du souvenir d'anciennes victoires, si vous voulez. L'ombre de Patrick Cohen et de la matinale d'Inter règne sur cet endroit, mais c'est étrange comme ce lieu est d'autant plus mort qu'il a été si vivant il n'y a pas si longtemps. En plus, tout est rouge. Et alors le rouge, c'est la couleur de l'énergie et c'est devenu le témoignage pathétique d'une tonicité caduque. Il y a quelque chose de mort à Mangin pour l'instant, alors. Certainement, nous allons changer tout ça et cet endroit sera réinvesti. Mais pour l'heure, l'endroit où nous nous trouvons a quelque chose d'à peu près aussi mort que Coriolles après la bataille.
France Culture, le gai savoir.
Raphaël Antoven.
Dans le peu de temps qui nous reste, Raphaël, j'aimerais revenir sur une distinction. Enfin, en tout cas, on se souvient qu'on a parlé donc de l'orgueil de Coriolan. Sa mère lui reprochait d'avoir trop d'orgueil à un moment, mais elle lui fait un autre reproche. Je crois que c'est la première rétractation, la première fois qu'il y a une confrontation entre les deux. Et elle lui dit « Mon fils, vous êtes trop absolu ».
Oui.
Alors, est-ce que c'est la même chose d'être trop absolu et d'être trop orgueilleux ? Qu'est-ce qu'elle veut dire d'autre par là ?
Oui, vous êtes trop absolu. Alors, elle lui dit ça au moment où elle lui conseille de flatter le peuple.
D'être plus souple, oui.
Oui, d'être un peu plus
d'avoir
souple.
D'avoir les chines plus souples.
Voilà, d'avoir les chines plus souples. Et en fait, ce qu'elle lui fait comprendre, c'est que... C'est une phrase d'Aragon, d'ailleurs. C'est dans Aurélien. Le goût de l'absolu.
Volumni avait lu Aragon.
Voilà, Volumni avait lu Aragon. Peut-être d'ailleurs Aragon, en tout cas, lui, avait-il lu Coriolan. Et peut-être l'a-t-il mal compris. Enfin bon, laissons ça. Volumni a lu Aragon... Puisque Aragon, dans Aurélien, déclare que le goût de l'absolu est une maladie plus répandue que la grippe. Et ça, c'est très important, parce que bien souvent, on confond le contenu de son propre discours avec la singularité de sa propre personne, ce qui est un des grands malentendus. C'est la raison pour laquelle on veut penser, par exemple, qu'une sagesse sans démesure est une sagesse sans grandeur. Si vous n'êtes pas dans la démesure, c'est que vous n'êtes pas dans la grandeur. Parce que votre discours ne contient pas cet appel à la grandeur ou à l'absolu. Comme si la grandeur d'un discours, l'ampleur d'un discours, la puissance d'un discours était fonction de ce que ce discours propose. Mais à ce compte-là, le premier démagogue serait un grand politique. À ce compte-là, le premier démagogue disant « tout le pouvoir au peuple » serait un immense politique. Or, un démagogue, c'est celui qui abrite des turpitudes et des manœuvres derrière de belles paroles. C'est bien que une position politique, la grandeur d'une position politique, ne repose pas sur l'intransigeance du discours qu'elle porte, mais sur la fidélité au discours que l'on tient, quel qu'il soit. Quand Volumni dit à Coriolan « Vous êtes trop absolu, vous avez le goût de l'absolu », qu'est-ce qu'elle lui dit ? Elle lui dit « Vous êtes comme tout le monde ». Vous êtes comme tout le monde. Vous êtes un plouc. Vous êtes un beauf, mon fils. Vous êtes comme tout le monde. Comme tout le monde, vous ne voulez pas céder. Et combien d'individus, et de politiques d'ailleurs, font leur miel ou leur beurre ou leur business du fait que eux, ils ne cèdent pas. Il y a, dans ce reproche qu'elle fait à Coriolan, quelque chose, je crois, de fondamental, qui est de rappeler une chose, c'est que le goût de l'absolu, c'est ce que nous avons le plus en partage. Nous avons tous le goût de l'absolu. Mais nous sommes très rares à être fidèles au discours que nous tenons, quel qu'il soit. Or, ce qu'elle demande à Coriolan, c'est une fidélité supérieure à la fidélité qu'on doit témoigner au goût de l'absolu, justement. Non, ce qu'elle demande à Coriolan, c'est d'être fidèle à la grandeur qui est la sienne, qui implique le respect, l'égard et éventuellement une petite génuflexion devant le bon peuple qui, après tout, n'est pas si mauvais et qui ne demande qu'à être gouverné par lui. Elle lui enseigne ça. Cette injonction de Volumni, ce reproche qu'elle lui fait, est à lire à l'aune des débats contemporains. Bon, aujourd'hui, Alain Badiou, par exemple, pour ne pas le citer, est le premier à dire que la politique dépérit d'avoir abjuré le goût de l'absolu. À lire Coriolan, on comprend exactement l'inverse. Exactement l'inverse. C'est que la grande politique, la vraie politique, elle n'est certainement pas dans le fait d'infliger à un réel complexe, gris, bizarre, le filtre intransigeant de son propre absolutisme. Ça, c'est pas de la grande politique, c'est de la connerie. Ou c'est de la démagogie. Si c'est pas de la connerie, c'est un calcul. Si c'est pas stupide, c'est calculateur. La grande politique, elle est aussi de savoir changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Elle est aussi de renoncer à cet absolutisme juvénile au profit des compromis qui permettent de rester fidèle à ce qu'on est, en définitive. On reste fidèle à ce qu'on est quand on ne perd pas de vue son objectif, en d'autres termes. Comme le dit Max Weber, il n'est pas d'éthique de conviction qui ne soit bordée par un peu d'éthique de responsabilité. Et inversement, un homme politique sans conviction, c'est un ectoplasme qui change d'alliance comme de chemise et qui n'a aucun intérêt, sinon un intérêt tribunicien et la démagogie. Mais un homme politique qui ne cède sur rien ne fait aucune carrière et ne sert à rien, en définitive. Donc c'est à trouver ce compromis que Volumni travaille Coriolan. C'est cela qu'elle lui demande. Et elle le travaille au corps pour ça. Elle le travaille en lui montrant qu'elle-même est capable de s'agenouiller. Et elle le travaille au corps parce que, et c'est la grande leçon de Volumni, elle lui montre que la grandeur est dans le renoncement. Il y a de la grandeur dans le fait de faire son deuil, de l'idée qu'on se fait du monde, de soi, des autres, de sa ville natale et de ses ennemis. Il y a de la grandeur là-dedans, et c'est cela l'enseignement de Volumni, c'est là qu'elle est admirable.
Hello boys and girls. Today we're gonna talk about father and daughter relationships. Do you have a daddy? I'll bet you do. Who's your dad?
Fuck that shit, bitch. Eat a motherfucking dick. Chew on a brick and lick a million motherfucking cocks per second. I'd rather put out a motherfucking gospel record. I'd rather be a pussy wit, bitch. Eat pussy and have pussy lips glued to my face with a clit ring in my nose. Then quit bringing my flows. Quit giving me my ammo. Can't you see why I'm so mean? If y'all leave me alone,
tell him maybe.
I think my dad's gone crazy.
There's nothing you could do or say that could ever change me.
Merci Paola, merci à tous. Alors écoutez, tenez-vous bien, ce n'est pas de Coriolan pour une fois que nous vous parlerons la semaine prochaine, mais, chers auditeurs, d'un moraliste qui n'avait pas tout à fait renoncé aux passions qu'il savait disséquer. Oui, dimanche prochain, nous parlerons avec vous de l'homme dont Camus reconnaissait l'immense mérite d'avoir su ne jamais se donner des principes plus forts que son caractère. Nous parlerons du moraliste, d'un moraliste égaré dans un XVIIIe siècle dont il choisit d'épouser la ferveur, peut-être pour la subir un peu moins, Sébastien Roch Nicolas de Champfort. Dans l'intervalle, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, à la page du Gai Savoir. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres, disponibles au téléchargement. Sur notre site internet, donc à la page du Gai Savoir, ainsi que sur Facebook, où vous attendent téléchargement, donc écoute en ligne et bibliographie. Cette émission, par ailleurs, comme toutes les autres désormais, est en partenariat avec nos amis de Philosophie Magazine, dont je vous redonne le thème du mois, liberté, inégalité, immortalité, le monde que nous prépare la Silicon Valley, un dossier tout à fait fascinant, je dois dire. Retrouvez aussi les nouveaux chemins de la connaissance, qui sont plus que nos partenaires, nos frères, qui vous parlent de mode et de philosophie cette semaine, et toute la semaine, comme d'habitude, de 10h à 11h, du lundi au vendredi, sous la houlette d'Adèle Van Rett.
You're funny, Dad.
Daddy. 17h sur France Culture. Dans un instant, l'atelier du pouvoir. Thomas Vider, Vincent Martini.